Bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand oral AEF Info FNEJ, le podcast des dirigeants des établissements d'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Piovesan, journaliste à AEF Info, et je suis aux côtés de Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ, pour échanger aujourd'hui avec une toute nouvelle directrice d'IAE, en l'occurrence de l'IAE le plus gros de France, celui de Lyon, Marie-Christine Chalut. Bonjour et bonjour à vous Jérôme.
Bonjour.
Bonjour.
Marie-Christine, en tant que professeure, vous êtes une spécialiste de stratégie et d'entrepreneuriat. Et vous avez pris la direction de l'IAE de Lyon tout récemment, en septembre 2023, 10 ans après avoir été recrutée à Lyon 3, et aussi après avoir passé 7 ans en entreprise. Pour commencer, racontez-nous un petit peu le cheminement qui vous a mené à prendre ces nouvelles fonctions.
Alors effectivement, c'est toujours un parcours qui nous amène là et... Moi, j'ai commencé par un master de recherche, un DEA à l'époque. Après avoir fait un petit peu de recherche, j'ai voulu aller voir ce qui se passait dans les entreprises. Donc, je suis partie, effectivement, mener des activités de consulting en stratégie. Et puis, j'ai pris une direction marketing dans un groupe industriel. Mais tout en maintenant des activités de recherche et d'enseignement, en fait. Je voulais pas quitter ça, je voulais juste comprendre, aller au sein des organisations. Pour moi, c'était important. Et puis, quand la boucle a été bouclée, de toute manière, vraiment, mon appétence, c'était ce métier d'enseignant-chercheur. Et je suis donc revenu officiellement à l'université. J'ai pris un poste à Grenoble, à l'IUT. C'était un espace plutôt intéressant justement quand on vient de l'entreprise puisqu'ils sont très très en proximité avec les entreprises et j'ai beaucoup apprécié cette période-là où on voit les premières années qui passent en deuxième année et avec toute une évolution qui est souvent assez incroyable, mais mon appétence allait quand même pour l'objet IAE en fait et bien sûr étant de Lyon en plus, l'IAE Lyon avait toujours suscité mon intérêt, je trouve le modèle particulièrement intéressant, donc je suis arrivé à l'IAE de Lyon en 2013. Et après, voilà, j'ai pris un certain nombre de responsabilités qui m'ont amené jusqu'à cette élection de l'année dernière. Voilà.
Vous en êtes diplômée ou pas?
Non.
Non.
Lyon 2 et même Lyon.
Ah, lyonnaise quand même.
Oui.
Alors, je l'ai dit en introduction, l'IAE de Lyon est le plus gros IAE du territoire français, avec plus de 7000 étudiants et une gamme complète de formations allant de la licence au doctorat, ce qui est assez rare dans ce paysage des IAE. Pour autant, il me semble qu'on en entend assez peu parler, que ce soit au sein du réseau IAE France, au niveau national donc, ou en local, par exemple dans tous les débats sur la structuration du site universitaire lyonnais. Est-ce qu'il faut en conclure que vous vivez un peu à part ?
Non, je dirais que l'IAE Lyon, chaque mandat apporte sa touche et peut-être que ce sera l'occasion de faire grandir, de faire rayonner encore cette IAE Lyon qui a de très très bonnes bases. Peut-être que l'IAE Lyon est peut-être à l'image de Lyon, c'est-à-dire discret un petit peu et pluridisciplinaire, intersectoriel. Mais non, effectivement, on a quand même, moi j'estime en tout cas, une très bonne aura, en tout cas sur notre territoire, et même au niveau national, voire international, sur nos partenaires. Donc non, il y a quand même un vrai travail qui a été fait depuis des années. Et quant à IAE France, l'idée est bien sûr de contribuer, je vais m'impliquer, c'est évident.
Quelle nouvelle impulsion vous aimeriez donner à cet établissement? Là, ça fait bientôt un an que vous vous êtes installée, que vous avez observé les pratiques depuis le poste de directrice. Est-ce que vous avez identifié des priorités?
Oui, bien sûr. Alors, je dirais que la première année passe par une phase justement de compréhension de cette organisation. Tant qu'on n'est pas arrivé en direction, on n'a pas l'ensemble des éléments, c'est bien évident. Donc... Là, ça a été l'occasion de faire des audits, de travailler justement sur cette organisation pour l'améliorer afin justement de porter ensuite notre stratégie qu'on commence d'ores et déjà à mettre en place. On avait dans notre campagne parlé de donner envie, par exemple. Donc ça, c'est un sujet qui est revenu très régulièrement. C'est aujourd'hui permettre à nos étudiants d'avoir une employabilité, dont on parlera peut-être après, qui est déjà forte et qui va permettre d'accompagner les transitions, d'être ambitieux et de former des managers responsables. Dans nos points clés, et quand je parlais de donner envie, ce n'était pas un hasard, c'est de dire qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'à l'intérieur de notre IAE ou avec nos partenaires, justement, on puisse accompagner un certain nombre de projets. Et donc, ça peut être des chaires, ça peut être des observatoires, et on a déjà commencé, en fait. On a cette caractéristique-là, que la taille nous permet de nous associer à un grand nombre de projets Et on a aussi une forme de stabilité et d'aura. On est réputé pour être sérieux, on est réputé pour mettre des jeunes dans le monde professionnel qui sont opérationnels et qui ont des soft skills particulièrement intéressantes. Donc cette idée, effectivement, de lancer un certain nombre de grands projets, de continuer à travailler sur l'impact et l'inclusion. Alors, on le fait déjà, hein, c'est dans tous nos programmes. On a beaucoup de projets, on est dans des dispositifs qui travaillent sur l'impact, mais de renforcer ça encore plus, parce que pour nous, c'est important aussi, dans ce monde-là, de former des jeunes avec des valeurs importantes. L'international reste effectivement un sujet particulièrement important, mais peut-être un international un peu plus inclusif.
Hein, bon, on va en reparler.
Ok, bon. Donc,
Alors, parlons un peu de territoire, et en particulier du territoire lyonnais, mais cette fois-ci, plus directement, relation avec l'IAE de Lyon. Quand on va sur votre site internet, on lit que 75% de vos diplômés sont recrutés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à 30% dans des ETI et à 40% dans des PME, TPE, start-up. Est-ce que vous êtes une école du territoire avant tout, dans le cadre de vos relations avec les entreprises, de vos partenariats institutionnels, de votre dynamique d'ensemble ?
Oui, absolument. C'est-à-dire que les chiffres parlent, 75%, c'est important. Et je dis souvent, on forme une future manager du territoire. Et c'est pour ça qu'on a tout intérêt à continuer à travailler en partenariat fort avec les acteurs de l'écosystème de Lyon, ce qu'on fait. Après, on peut noter aussi qu'on a 13% de nos étudiants qui partent à l'international aussi, ce qui n'est pas neutre non plus. Donc on voit bien qu'on est à la fois très ancré dans le territoire, mais qu'on est particulièrement aussi ouvert sur l'international.
Alors vous êtes sur un site qui compte de nombreux autres établissements dans le domaine de la gestion et du management, beaucoup d'écoles de commerce qui sont théoriquement vos concurrents, le M Lyon, Burgundy School of Business, l'ESDES, les écoles du groupe Omnes, l'IDRAC, etc. Il y a eu beaucoup d'installations récentes. Alors, quelle relation entretenez-vous avec cet univers ? Est-ce que vous les considérez effectivement comme des concurrents pour le recrutement d'étudiants d'une part et puis peut-être pour celui des professeurs ou des intervenants ?
Moi, je ne nous considère pas comme concurrents. Je trouve qu'il y a potentiellement de la coopétition. Effectivement, hein, coopération, compétition, ça, oui, certainement. Mais dans l'idée, moi, j'aime mieux parler effectivement de synergie parce qu'on va tous apporter finalement notre pierre à cet édifice. Et puis, ceux qui n'apportent pas une pierre solide, de toute manière, en général, n'y restent pas très, très longtemps. Donc, on a des rapports avec l'EM, on a des rapports avec la plupart de ces écoles, je dirais, qui sont comme nous, on va dire. Et non, je pense que là-dessus, il y a un beau territoire concurrentiel. Et qu'on a notre place en tant qu'école publique de management, et c'est particulièrement important, ça. C'est-à-dire que des jeunes, quelle que soit leur origine, ils doivent pouvoir faire des études de management de qualité. Et pour moi, ça, c'est particulièrement important. Après, si on parle de différenciation, l'avantage d'être ancré au cœur de Lyon, dans un grand campus, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'Université Lyon 3, elle offre d'autres facultés en langue, en philo, en droit, en lettres. Et en fait, on a des doubles diplômes, on a des mineurs, on a des majeurs avec les meilleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est... Bien sûr, après, on a toute la dimension culturelle, les artistes invités, les salles de concert. Enfin, voilà. On offre à nos étudiants, je trouve, une expérience. Quand on parle beaucoup d'expérience étudiante, je trouve qu'on leur offre une expérience étudiante incroyable pour un prix plus qu'accessible pour eux.
Donc, coopétition et quand même l'appartenance lyonnaise qui vous réunit sur le territoire.
Oui, alors, on collabore.
Restons un petit peu sur le territoire, parce que d'une certaine façon, et quand on reprend les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, on se demande si ce n'est pas, en définitive, l'IAE de Lyon qui joue le rôle de réponse aux besoins du tissu entrepreneurial local, et alors même que les écoles avaient été créées par les chambres de commerce et d'industrie pour jouer ce rôle-là. On se demande si elle le joue encore. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu vous qui avez pris cette place ?
Toute organisation évolue. Hein. C'est dans l'ordre des choses. Disons que nous, on a toujours été ancrés dans le territoire. On est créé les IAE à l'origine. Hein. Effectivement, sont l'ouverture, notamment de l'université, sur la partie socio-économique. Dans nos conseils, on a effectivement des représentants des entreprises, de la ville, de la métropole. Donc, on a déjà toujours eu ce rôle-là. Et les écoles de commerce l'avaient aussi. Après, les dimensions évoluent et changent. On reste sur notre territoire. On ne va pas aller ouvrir d'antennes particulièrement ailleurs, par exemple, ça c'est sûr.
Alors parlons un tout petit peu d'apprentissage. C'est un sujet en ce moment qui est d'actualité.
C'est sûr.
Comment vous le pratiquez à l'IAE de Lyon ? Est-ce que vos effectifs ont ont beaucoup augmenté depuis l'ouverture de l'apprentissage. On parle d'open bar. Donc.
Tout le monde a profité effectivement de l'engouement vers l'apprentissage, c'est évident. Aujourd'hui, l'alternance représente 30% de nos étudiants, sachant qu'on va quand même de licence à doctorat. Donc voilà. Donc c'est important, ça a évidemment beaucoup évolué, on continuera à le faire évoluer, parce que c'est important pour nous, la formation continue aussi est un sujet. On n'en a pas parlé dans ma stratégie, mais ça en fait partie.
Est-ce que vous avez beaucoup plus d'étudiants apprentis aujourd'hui que vous n'en aviez il y a 5 ans?
Alors, effectivement, je n'ai pas du tout le chiffre exact en tête. Oui, on progresse tous les ans, oui. Bon, après, là, ces dernières, on a encore progressé cette année. Oui.
Et vous aimeriez aller encore plus loin ou vous estimez avoir atteint...
On a un rôle aussi en formation initiale et qu'il ne faut pas négliger. Un jeune n'est pas obligé non plus de faire de l'alternance, même si je trouve que c'est bien en termes d'adéquation emploi, etc. C'est bien pour les entreprises, c'est bien pour les jeunes. Mais on peut avoir aussi des jeunes qui peuvent avoir envie de rester en initiale. Et je trouve qu'on doit permettre encore aujourd'hui cette possibilité qui presque devient rare. Donc on ne sacrifiera pas non plus la formation initiale.
Est-ce que vous considérez que vos jeunes qui sont formés par l'apprentissage ont les mêmes caractéristiques, le même niveau, le même diplôme? Je crois qu'ils ont le même diplôme que ceux qui sont formés en formation initiale classique, sachant qu'ils n'ont pas eu les mêmes rythmes, ils n'ont pas eu des fois les mêmes professeurs. Est-ce qu'au final, le recruteur, vous qui êtes passé par l'entreprise, retrouve le même produit avec des gros guillemets?
Alors, évidemment, un jeune qui est en apprentissage depuis un an ou deux dans une entreprise, forcément, l'entrepreneur ne prend pas beaucoup de risques à le recruter ou à ne pas le recruter. Déjà, ça, c'est en termes de... Après, concernant la formation, bien sûr que non, il a exactement la même formation. On a même des formations qui sont hybrides, où vous allez retrouver dans une même classe des personnes en initiale et des personnes en alternance, avec un rythme stage, et l'autre un rythme apprentissage. Donc non, on fait en sorte qu'ils sortent avec le même bagage.
Alors, l'alternance et la formation continue, vous en parliez tout à l'heure, pèsent assez lourd dans votre budget. Vous déclarez un budget consolidé d'environ 30 millions d'euros. Et vos ressources propres sont équivalentes à 10 à 12 millions, vous me corrigez si je dis des bêtises. L'IAE est-il le principal pourvoyeur de fonds propres de son université de rattachement, Lyon 3?
Alors, on est en train de consolider le budget actuellement. Donc, on a 34 millions de budget, à peu près, pour cette année 2024, avec une part, effectivement, de ressources, de recettes, on va appeler ça comme ça, hein, d'environ 12 millions. Donc, effectivement... ce qui fait de nous, on fait plus de 50% effectivement des fonds propres de notre université. Oui.
Alors que vous, en termes d'effectifs, vous représentez quoi à Lyon 3?
En termes d'effectifs de quoi?
D'étudiants.
La faculté de droit est plus importante que nous. On est la deuxième composante, effectivement. Mais droit passe les 10 000.
D'accord.
Mais développe l'alternance aussi.
Et au total, l'université Lyon 3, ça
27 000 étudiants.
Ok. Comment vous décririez vos relations avec Lyon 3? Je vous pose cette question parce que dans... plusieurs autres lieux en France, les IAE, semblent souffrir un peu de la place qui leur est faite dans leur université, qu'ils considèrent comme pas assez alignée avec ce qu'ils représentent vraiment en termes d'effectifs, en termes d'attractivité ou de capacité de financement, justement. En gros, ils se sentent un peu mal aimés. À Lyon, on dirait que c'est l'inverse.
Non, effectivement, ça se passe très bien. De toute manière, dans le cadre de ma prise de fonction, vraiment, l'idée, c'était de travailler en très bonne entente et de s'aligner aussi sur la stratégie de l'université. Ils ont développé énormément de choses sur les transitions écologiques, sur le handicap. Donc nous, vraiment, on a plutôt été, nos axes stratégiques, on les a, pour ce qui était de l'université, alignés. Et ça, c'est important. Alors, ça fonctionne, moi je dirais, on fonctionne en bonne entente, franchement.
Ils ouvrent autant de postes que vous le souhaiteriez?
Oui.
Parce que c'est pas le cas partout.
Actuellement, tout à fait, ça se passe très bien. On a même été doté plutôt bien. Oui.
Et vous ne direz pas que vous manquez de bras, comme ça a été dit dans...
Alors, on manque toujours de bras, mais ce n'est pas toujours à cause de notre université. Hein. C'est, même si, effectivement, on a de l'argent, on doit le gérer en bonne gestion. Hein. On est public, et donc ça, c'est important. Et donc, il y a ce qu'on appelle le plafond d'emploi. Donc, une fois que le plafond d'emploi est saturé, il y a plafond 1, plafond 2, enfin, on ne va pas rentrer dans la technique, il est saturé. Voilà, donc effectivement, il y a des moments où on manque. Je pense qu'on va commencer à réussir à équilibrer en retravaillant justement sur l'organisation, etc. Mais bien sûr qu'on préférerait encore plus recruter, c'est évident.
Alors, élargissons un petit peu la focale, le paysage universitaire lyonnais a du mal à faire sa mue depuis son échec aux initiatives d'excellence. Alors, les épisodes d'alliance et de désalliance sont tellement nombreux qu'il faut vraiment être un spécialiste pour suivre cette saga. On a l'impression que Lyon 3 se sent un petit peu, se tient un petit peu éloigné de ces débats. Quelle est l'analyse que vous, vous faites de cette situation un peu cacophonique parfois ?
Alors, c'était il y a 4 ans. Hein. Ça date un peu maintenant, effectivement.
Ça n'a pas beaucoup évolué depuis 4 ans, quand même.
Non, mais c'est toujours des épisodes un peu traumatisants, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, en fait, de toute manière. Parce que tout a dû se retravailler, puisque les universités pensaient se rassembler. Qu'importe qu'elles le souhaitent ou pas, à un moment donné, ça ne se fait pas. Donc tout le monde doit réapprendre à travailler, chacun de son côté, finalement. Donc il y a quand même toute une phase, je pense, d'apprentissage qui s'est faite. En y réfléchissant, aujourd'hui, on voit bien même que les choses progressent au niveau national. Est-ce que ce n'est pas vers des modèles un peu de, je dirais, confédération qu'il faudrait aller, hein, c'est-à-dire en maintenant une souveraineté. Et puis, mon idée quand même, c'est que c'est les projets transversaux qui vont nous réunir. Hein, les projets santé réunissent, les projets IA réunissent. Et c'est là où il faut qu'on soit tous partie prenante. Et c'est là où l'IAE a sa place à jouer. C'est en étant systématiquement présent dans les sujets important que l'on porte, hein, sur lesquels on est très développé, et on a une force de frappe là-dessus qui est importante. Donc on porte des gros projets européens, des choses comme ça. Donc voilà.
Mais j'insiste un petit peu parce qu'on a l'impression qu'à Lyon en particulier, les établissements d'enseignement supérieur ont plus de mal qu'ailleurs à s'entendre et à accoucher d'une stratégie commune. Alors il y a aussi le cas de Toulousain qui est en passe de se résoudre, mais il y a quand même là un nœud qui semble irrésolu. Vous qui êtes lyonnaise, il y a une explication historique, politique, socio-économique, qu'est-ce qu'il y a là derrière ?
Non, je crois qu'il ne faut pas toujours chercher si loin que ça. Après, il y a des historiques, hein. On a tous été, toutes ces universités se sont créées à des moments donnés avec des spécialités. Là, aujourd'hui, je pense que les solutions sont en train de se chercher. Il faut aussi peut-être laisser le temps à ces zones qui étaient fortes, et voilà, chaque zone était relativement forte, de réapprendre à travailler ensemble. Là, pour le coup, je pense que il y a quand même quelques initiatives et qu'on va y arriver comme nous tous, évidemment.
Alors revenons un peu à l'IAE de Lyon. Il y a une caractéristique ancienne de l'IAE de Lyon, c'est son internationalisation. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. Vous avez pas mal d'activités délocalisées à l'étranger avec 12 programmes qui sont opérés dans différentes régions du monde, en Afrique, en Asie, en Arménie par exemple. Lorsque vous opérez ce type de programme délocalisé, quel est l'objectif stratégique sous-jacent? Est-ce que c'est de recruter des étudiants étrangers à Lyon, ou alors est-ce que c'est de former des gens sur place, ou est-ce que c'est les deux?
Oui, j'allais dire c'est les deux. Hein. L'idée, c'est effectivement, on a des partenaires historiques. Encore une fois, dans nos délocalisés, il y a des programmes qui ont 20 ans. Prague, par exemple, voilà, ou l'université française en Arménie, c'est des partenaires historiques forts qui ont chacune, je dirais, un historique. Dans l'idée aujourd'hui sur l'international, c'est de continuer à promouvoir cet international. C'est important pour nous puisque c'est vraiment dans notre ADN, hein, le Think Large. Hein, c'est pas que de l'international évidemment, mais c'est vraiment cette ouverture. Ça peut être aussi de développer cet international de manière inclusive. On fait un test métaverse bientôt avec un cours international. Tous les étudiants ne peuvent pas partir à l'international, mais c'est aussi de ramener l'international à la maison. Donc pour donner un autre exemple, une autre illustration, depuis des années, il y a ce qu'on appelle l'International Week. On a 95 professeurs invités par an, à peu près. Et on fait une International Week tous les ans en janvier. On fait venir, cette année, il y avait 51 enseignants du monde entier qui viennent donner des cours à nos Master 1 et nos Master 2. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc l'international, c'est y aller, faire vivre nos délocalisés, faire vivre nos doubles diplômes. On est plus dans une logique de double diplôme aujourd'hui. Mais aussi faire venir l'international à nous et créer des synergies. Vraiment apprendre. Voilà. L'aide internationale, c'est aussi vivre ensemble et avancer tous ensemble, en fait. C'est important.
Donc vous dites plutôt des nouveaux doubles diplômes que de nouvelles délocalisations.
Oui.
D'accord. Quelle est la raison ?
Dans un souci de, par rapport aux aspects d'accréditation, et voilà, on va aller chercher plutôt une co-construction, vraiment, un partage de ces diplômes. C'est vraiment l'idée, c'est le souci de la qualité pour les ouvertures, bien sûr. Voilà.
Alors, vous me tendez la perche, je la saisis. L'IAE Lyon a déjà obtenu l'accréditation IPAS de l'EFMD pour son master en management international. Vous avez connu d'autres événements en matière d'accréditation. Quelle est votre stratégie en matière d'accréditation internationale pour l'établissement ?
Alors, on est lancé dans des accréditations. Donc, l'EFMD, dont on est membre depuis 1997 et dont on a été, je crois, dès 2013, voilà, on a obtenu cette accréditation. pour notre master, justement, management et commerce international. Et puis, bien sûr, on est lancé dans d'autres accréditations. Actuellement, c'est vraiment important pour nous d'aller sur ces accréditations, soit de les faire vivre, de les renouveler, soit d'aller sur des accréditations internationales de très bon niveau pour nous assurer ce développement international, comme on l'a dit. Hein, une université, quand vous voulez travailler avec elle, la première chose qu'elle vous dit, c'est est-ce que vous êtes accrédité comme moi. Mais l'accréditation, c'est pas une fin, c'est un moyen. Et moi, je le vois vraiment comme une manière de se remettre en cause, de se challenger, de s'améliorer. De ne pas rester sur nos acquis, de ne pas rester, voilà, d'être dans ce processus d'amélioration continue aussi. Vraiment, c'est particulièrement intéressant.
Aix et Toulouse sont allés vers Equis. Et vous, le plus gros IAE de France, c'est pour quand?
Non, bien sûr, vous savez, Equis n'est plus un sujet. Chez nous, on s'était lancé dans Equis il y a déjà pas mal d'années maintenant. Et effectivement, les peer reviews avaient donné un avis positif, mais au final, Equis ne nous avait pas accrédité, ce qui a été un choc, je dirais, en interne, parce qu'il y avait eu une mobilisation très très importante de nos équipes, il y avait eu un gros travail qui a été fait. Mais c'est la vie d'une accréditation, on avance, ça nous a fait faire des progrès quoi qu'il en soit, on a appris beaucoup de choses. Donc après, faut voir les choses. J'aime bien voir les choses de manière positive. Donc voilà, on apprend de ces échecs aussi.
Ça vous paraît important pour une institution telle que l'IAE de Lyon d'aller vers Equis ou ACSB? C'est quelque chose que vous aimeriez inscrire à votre agenda?
C'est dans notre stratégie d'aller sur les accréditations. On y va, effectivement. On a une structure pour ça aussi. Hein. Je veux dire, on a un service qualité digne de ce nom. Et on participe, on est membre de l'FMD, on est membre de ASISB. Et on participe le plus activement possible.
C'est donc dans votre feuille de route.
Tout à fait.
Chère Marie-Christine, il est déjà temps de nous quitter, mais vous n'allez pas partir avant d'avoir offert quelques conseils de lecture ou d'écoute à nos auditeurs, comme c'est la tradition ici. Qu'est-ce que vous avez lu ou vu d'intéressant ces derniers temps, et peut-être en lien avec notre conversation?
Alors, en complément de notre conversation, je recommanderais de voir le documentaire de la Lyonnaise Flore Vasseur, Bigger Than Us. Parce qu'en fait, qu'on peut connecter aussi avec le livre qu'elle m'avait offert d'ailleurs de Nouvelle Terre, puisqu'on peut aller de Eckhart Tolle. Et pour moi, l'idée, c'est que nos étudiants vivent dans un monde tellement anxiogène. On peut regarder tous les pans. Et moi, je n'ai pas envie que des étudiants qui rentrent chez nous soient encore plus, voilà, qu'on les mette encore plus dans l'anxiogène. Et ça, c'est des formidables. Ce documentaire est formidable en émotion parce qu'il montre des initiatives de jeunes. Sur des sujets qui peuvent avoir trait au tri des déchets, aux petites filles, etc. Et pour montrer que justement nos jeunes, ils peuvent agir, ils doivent agir et on doit les accompagner pour ça. Nous, on doit leur donner les moyens, la boîte à outils pour ça. C'est pour ça qu'on a aussi un BMA. Le BMA, on a du bénévolat. Il y a 20 000 heures de bénévolat qui sont faites par nos premières années auprès d'associations.
BMA.
Bénévolat, je ne me souviens plus du M et du A.
Management, quelque chose.
Voilà, c'est ça. Et en fait, nos étudiants de licence doivent faire 20-30 heures de bénévolat dans des associations dignes de ce nom. Parce qu'ils doivent être au cœur, justement, de la société. C'est important. On les forme, les managers de demain. Il faut que ce soit les acteurs de demain.
Rappelez-nous le titre de ce documentaire.
Bigger Than Us.
Bigger Than Us. Merci beaucoup, Marie-Christine Chalut, d'avoir fait ce détour par le studio Module aujourd'hui. Merci à vous, Jérôme. Et merci à tous nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.